Radio-Canada.fr. Je suis ce soir avec Vladimir Grevronsky.
Bonjour.
Spécialiste des médias russes. Bonjour Vladimir.
Merci, bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette interview. Et donc nous allons parler de médias russes, puisque Vladimir est directeur de R&D dans une entreprise qui s'appelle Basic Lead.
Oui.
Qui est spécialisée donc.
Qui est spécialisée dans l'organisation des marchés de contenu audiovisuel.
D'accord. Oui. Est-ce que on peut peut-être commencer par ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé à travailler en France?
D'accord.
Depuis combien de temps est-ce que tu es en France?
Je suis venu en France en 2003 pour faire des études. Donc j'ai fait Sciences Po Paris, carrière internationale.
D'accord.
Et en 2006, c'était terminé. Donc moi, j'ai cherché du boulot, comme tout le monde. J'ai trouvé Basic Lead. Depuis ce temps-là, je continue.
D'accord.
Oui.
Et alors, je t'ai contacté parce que tu as aussi un blog.
Oui.
Et il y a peu de blogueurs sur la toile franco-russe. Il y en a quelques-uns qui commencent à apparaître. Tu en fais partie. Et j'ai trouvé ton blog très sympa et très atypique, assez spécialisé donc sur les médias russes, puisque le blog s'appelle mediarusse.com.
Oui. Merci, d'abord.
Et... Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur le blog?
Oui. C'est un blog professionnel. Pourquoi c'est professionnel? Parce que moi, j'essaie de partager sur ce blog l'actualité, ce qui concerne la télévision et le cinéma, parfois aussi en Russie, et, avec mes commentaires. Et ma vision des choses. L'idée de créer ce blog m'est venue parce qu'un jour je me suis dit, j'essayais d'ailleurs de trouver quelque chose en français qui concerne le développement du marché audiovisuel en Russie et
D'accord.
J'ai pas trouvé. Et je me suis dit, ben alors si.
Tu as pas trouvé de site internet en fait?
Non,
de,
non, j'ai trouvé beaucoup. J'ai beaucoup cherché et j'ai trouvé quelques sources en anglais,
D'accord.
mais pas en français.
Pas en français.
En français, il y a des blogs sur le cinéma, spécialisés sur la critique de cinéma,
ouais.
ou dédiés au festival russe, de cinéma russe.
Pour ce qui concerne les médias russes, c'est tout.
Oui, bah, en gros. Hein.
D'accord. Et donc, tu fais ce blog en français, tu parles parfaitement français.
Merci. Merci.
c'est quoi le but de ce blog, en fait? Avec ça, pour essayer de trouver des opportunités.
Oui, pourquoi pas, des opportunités. Mais pour moi aussi, c'est de rester en contact avec le secteur média que j'aime bien et le pays
ouais.
d'où je viens.
D'accord, un secteur média. Aussi,
secteur média, oui.
En Russie, qui bouge beaucoup.
Qui bouge énormément.
Qui bouge énormément. Mm. On va en parler justement. Alors, bah on peut commencer par parler des médias russes.
Oui.
C'est le programme du jour.
Oui.
On a parlé en préparant un peu cette interview du web russe, qui mm-hmm. fait peut-être partie des secteurs, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais
non,
qui bouge le plus en fait sur les médias, il y en a d'autres.
Mm-hmm.
Mais le web c'est assez intéressant, surtout en Russie, et enfin, tu vas nous en dire deux mots.
Mm-hmm. Le web, l'internet russe, Runet, on l'appelle aussi.
Ouais.
Fait des dégâts, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça se développe à une vitesse de croisière et très vite.
D'accord.
Il y a à ce jour il y a 70 millions
ouais.
d'utilisateurs internet.
70 millions d'internautes russes.
Tout à fait, ce qui fait la moitié de la population.
D'accord. Sachant que quand vous écouterez cette interview, il y en aura peut-être 80 millions et plus.
Et plus, oui.
70 millions d'internautes russes, c'est beaucoup. En France, on est à peine 40 et quelques millions d'internautes.
Tout à fait.
On est moins que vous en population.
Oui. Mais ça se développe en Russie très vite, comme je l'ai dit. Et c'est aussi pour ça que les investisseurs du monde entier. Maintenant, ils vont en Russie pour prospecter et pour voir les opportunités qui se créent.
D'accord.
Bon, là, je voudrais juste dire que aussi la Russie, c'est le leader européen qui pour les gens qui regardent la vidéo en ligne.
C'est le leader européen.
Pour les gens qui regardent la vidéo en ligne, oui.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de...
Beaucoup plus d'internautes russes vont sur le web pour voir les vidéos,
d'accord,
le contenu audiovisuel.
Beaucoup plus
qu'en France,
pays européen,
qu'en Allemagne
ouais.
et tous les autres pays européens,
d'accord,
bien évidemment.
C'est intéressant.
La Russie, c'est un marché particulier
ouais.
parce que souvent, les règles communes pour l'espace européen n'y tiennent plus. En l'occurrence, si on prend les réseaux sociaux, Facebook ne compte que 7,5 millions
d'utilisateurs
enregistrés,
ouais, ouais.
et parmi eux, seulement 1,5 million sont les visiteurs actifs.
D'accord.
Les utilisateurs actifs, pardon.
Donc 7 millions, ça paraît beaucoup comme ça, sauf qu'il y a un équivalent russe.
De réseau social,
ouais.
c'est contacté.
Contacté, ouais.
Ça signifie en contact. Les chiffres, c'est 42 millions de visiteurs quotidiens.
42 millions de visiteurs chaque
quotidien.
C'est énorme.
Oui.
Alors, ce qui est intéressant.
Et 170 millions de visiteurs enregistrés. Parce
170
que...
millions, d'accord.
Tout à fait.
Alors là, on parle par contre de Russie,
d'Eurasie. Ça comprend l'espace de CEI, de Communauté d'État indépendant.
D'accord. Donc, toutes les anciennes républiques.
Tout à fait.
De l'URSS,
oui.
la Russie, et puis une partie de l'Europe aussi.
Aussi, oui.
D'accord. Mm-hmm.
Moi, à l'occurrence.
D'accord. Donc, vous contactiez, tu me disais, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est le premier site européen en termes de fréquentation.
Tout à fait. Mm.
Et c'est pas tout, puisque vous avez aussi le deuxième.
Odnoklassniki, ça s'appelle. En français, on peut dire les copains d'avant.
Voilà.
Quelque chose comme ça.
Ouais, ouais.
C'est 30 millions de visiteurs quotidiens.
Quotidien, d'accord. Ouais. Donc avec ces deux sites-là, les Russes ont les deux premiers sites d'Europe. Internet.
Tout à fait.
C'est intéressant parce que tout le monde ne le sait pas. Très bien. Donc le web russe, on vient de voir que c'était effectivement en pleine effervescence, on va en reparler plus tard. Mais comme on parle des médias russes au sens large, on va aussi parler des films. On a parlé un petit peu, enfin on va parler de l'enfilm.
Avant de passer ça, on peut
Bien sûr.
On a oublié de... Je voudrais aussi faire un mot pour les particularités du marché russe et les règles du marché.
Tout à fait, ouais.
Là non plus. Le leader mondial européen, Google,
oui. Ah oui, bien sûr, oui.
ne tient pas ses promesses.
Voilà.
C'est-à-dire que Google, les recherches sur Google représentent 25% du trafic sur le web russe.
Des recherches.
Des recherches, oui. oui, oui. Les 60% appartenant à Yandex.
Yandex, c'est le gros moteur de recherche.
C'est le gros moteur de recherche. Pas que ça, c'est une plateforme, c'est un portail.
Voilà.
C'est un browser aussi, c'est un navigateur web, Yandex. Pareil à Google Chrome,
d'accord.
qui vient de sortir. Après, il y a Mail.ru. Mail.ru,
c'est
aussi un acteur important.
Donc c'est intéressant parce que non seulement en fait, la Russie a des géants du web... qui sont très 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 importants, mais en plus les géants du web mondiaux comme Google et Facebook ont du mal à y entrer. En
fait. À y entrer, oui, et à se développer,
ouais.
parce que la concurrence est très forte.
Maintenant. D'accord. Et en fait, voilà, Yandex a été fait par des Russes pour des Russes.
Ça, par des Russes pour des Russes au début, mais maintenant il s'ouvre
à beaucoup de pays.
À beaucoup de pays. Au début, bien sûr, les pays avoisinants.
D'accord.
Et ensuite, je pense qu'ils ont aussi des
des affinités à aller plus loin.
Bah oui.
Ouais.
Pardon.
D'accord. Et c'est marrant d'ailleurs parce que Google a deux fondateurs, dont un russe.
Oui, Sergey Brin.
Et malgré ça, il n'a pas réussi à conquérir la Russie.
Bon, je pense qu'il a commencé par. Il n'a pas pensé à commencer par la Russie. Et d'ailleurs, à l'époque.
C'était pas sensible.
C'était pas sensible à ce sujet. Donc, les États-Unis, c'était la référence.
Ouais, d'accord.
C'est toujours la référence d'ailleurs. Donc, là, on se trouve la technologie aussi.
Ouais.
Donc,
ils ont attaqué la planète par l'autre côté.
De l'autre côté, on peut dire comme ça.
Ok. Alors pour parler un petit peu des films russes, voilà, la Russie est très très riche en créativité, côté contenu cinématographique depuis bien des années. On assiste en ce moment, j'ai l'impression, tu vas me corriger si je dis des bêtises, ça m'arrive, j'ai l'impression qu'on assiste à un moment où la Russie commence à exporter ses films, où elle commence à se faire connaître sur la toile aussi par la mise en ligne d'un patrimoine cinématographique.
Oui.
Et c'est nouveau. Et qu'est-ce qui se passe avec ça?
Oui, tout à fait. Je peux dire que depuis 2010, qu'on peut voir la volonté de l'État à aider le secteur de cinématographie russe.
D'accord.
Les aides ont doublé entre 2010 et 2011.
D'accord.
Voilà. Donc,
elles étaient déjà importantes.
Elles étaient déjà. Avant 2010, non, c'était 2 milliards de roubles par an. Tandis que maintenant. C'est 5,3 milliards de roubles. Ça fait 137 à peu près millions d'euros par an. Et aussi, faut dire que sans l'État, l'industrie ne peut pas survivre maintenant. Donc, si en 2008, le budget de l'État dans les films produits représentait 18%, maintenant on est à presque 50%.
D'accord.
Donc les subventions sont importantes.
Ouais.
Il y a également deux organismes étatiques qui étaient créés pour aider l'exportation du cinéma russe à l'étranger. Je parle de fonds de cinéma.
D'accord.
Et de Roskino.
Roskino.
Oui.
Okay.
C'est deux acteurs qui représentent la Russie au marché international, qui organisent les marché de les marchés de contenu russe.
Alors juste, on peut peut-être faire une petite parenthèse pour expliquer c'est quoi un marché de contenu aujourd'hui.
Marché de contenu, c'est un endroit où les producteurs et les producteurs de contenu et les acheteurs de contenu peuvent se voir.
D'accord. Alors les contenus, c'est quoi?
C'est les, c'est tout ce qu'on regarde à la télé.
C'est du film,
c'est du film, des séries, des formats, des documentaires, tout.
Est-ce que ça inclut aussi tout ce qui est contenu web, texte ou c'est vraiment vidéo, film, série?
C'est autour de la vidéo.
C'est autour de la vidéo.
Oui, oui.
Et donc en face de ces gens-là qui produisent ces films et ces séries.
Donc c'est deux organismes, ils présentent les films nouvellement produit en Russie pendant les événements internationaux.
D'accord.
Et eux, ils organisent aussi deux événements. Je parle de Red Square Screenings.
Ouais.
Ça, c'est l'événement de fonds de cinéma.
Ok. Qui se déroule
à Moscou. Et il y a un autre marché, ça s'appelle Doors.
Ouais.
Doors, comme les portes.
Ouais, ouais.
Ça, c'est un marché ambulant.
D'accord.
C'est-à-dire que Roskino, il va dans un pays ou dans un autre et il organise le marché là-bas en invitant les acheteurs locaux, les sélectionneurs locaux.
Ça, c'est les deux gros événements russes, de l'échange de contenu entre producteurs et diffuseurs.
À part les festivals ou les semaines des cinémas russes. Récemment, on a eu l'événement qui s'appelait le cinéma russe à Paris, la semaine du cinéma russe à Paris, ou à Honfleur, aussi.
Voilà. D'accord. Mm-hmm. Tu m'as parlé aussi d'une particularité dans la production de contenu cinématographique russe, c'est tout ce qui est film d'animation.
Mm-hmm.
Le film d'animation russe, c'est Soyouz Mulfilm, qui est mondialement connu, qui est envié par Disney et par les plus grands, et voilà, aujourd'hui on peut trouver beaucoup de dessins animés russes sur Internet.
Oui.
Et voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau média, films d'animation aujourd'hui en Russie?
En parlant de Soyouz Mulfilm, c'est comme tu l'as dit, je suis aussi heureux que tu connais ce studio.
Ah, mais ce serait un crime de ne pas le connaître.
Ouais. Et pourtant, c'est un studio qui se sentait très mal récemment, et toujours, hein, d'ailleurs.
Ouais.
Donc, le temps de gloire, l'époque soviétique
est passée.
Et pour te donner une échelle de grandeur, si avant Soyuz Multifilm produisait 30 projets, 30 dessins animés par an en moyenne.
Avant, alors ça c'était quand ça
c'est-à-dire même les années 80 du 20e siècle.
D'accord.
Le siècle dernier. Maintenant, je te laisse deviner combien.
Bah, pas beaucoup.
Bah, un seul.
Un seul.
L'année dernière, c'était un seul projet.
D'accord. Donc en 2011, un seul film a été produit par.
Il n'était pas produit. C'était en production. Et c'est toujours en production, je pense.
Il n'est pas sorti encore.
Il n'est pas encore sorti. Mais il y a d'autres producteurs. Ils sont.
Producteurs indépendants.
Indépendants, oui. Des studios indépendants. Ils s'en sortent pas mal.
Ouais.
Pour citer un exemple,
il y a quelques cartons, effectivement. Oui. Il faut absolument voir parce que c'est
quoi, oui, c'est la référence de l'animation russe
c'est
contemporaine.
Le renouveau du dessin animé.
Oui, tout à fait. J'ai en tête le dessin animé qui s'appelle Les aventures de Luntik.
Luntik.
Oui. Luntik, il faut savoir, c'est un premier milliardaire d'animation russe.
Milliardaire.
Ouais. Je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi. La chaîne sur YouTube de Luntik, qui est tout à fait légale, c'est les producteurs qui mettent leur contenu dedans et qui perçoivent bien sûr les commissions de la part de YouTube issues de
publicité.
De publicité.
Ouais,
ouais. Récemment, ils ont publié le chiffre que cette chaîne a cumulé. En milliard de spectateurs.
Plus d'un milliard de
visiteurs, oui.
Pour Luntik.
Pour Luntik.
Si vous n'avez pas vu Luntik, allez voir parce que vous êtes parmi les rares finalement. Donc moi je ne l'ai pas vu, j'avoue, je vais aller voir ça très vite parce que c'est un carton Luntik avec plus d'un milliard de vues.
Oui. Plus que Michael Jackson et les chaînes de Michael Jackson ou Britney Spears.
À ce point-là.
C'est pas comparable, mais c'est juste. Faut rigoler un peu.
C'est pas comparable, c'est pas la même musique.
Oui.
Luntik, c'est un dessin animé à destination des
préscolaires. C'est l'âge préscolaire.
D'accord.
C'est un dessin animé qui est très.
À l'ancienne.
À l'ancienne, on peut dire. Et moderne à la fois.
C'est-à-dire basé sur des valeurs.
Des valeurs. Il n'y a pas de violence dedans.
D'accord.
C'est vraiment un dessin animé où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de méchant.
Ouais, ouais.
Et pourtant, c'est intéressant.
Et pourtant,
malgré
c'est
tout. C'est incroyable. Donc, au début, même, je pensais bah, comment ça peut être intéressant. Donc, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas des grands méchants.
Il
se passe quelque chose. Il y a des personnages qui déconnent, on peut dire.
D'accord.
Ils ne sont pas des méchants, ils déconnent. Et après, ils se corrigent.
Okay.
Et c'est autour de la nature, parce que tous les personnages sont des insectes.
Ouais.
Et Luntik, c'est un habitant de la Lune qui est tombé sur Terre,
d'accord,
qui essaie de retrouver des amis ici, de nouer les liens. C'est pas facile.
Okay.
Et chaque personnage a son caractère, si tu veux. Et ce qui est important pour le dessin animé, moi je trouve, qu'il y a la présence d'un adulte derrière. C'est-à-dire que tu le vois pas, mais la voix de narrateur,
d'accord,
d'auteur,
il
est pas très important. Il est très léger.
Au bon moment.
C'est-à-dire il y a des choses qui sont dites au bon moment.
D'accord.
Et c'est ça qui est. Je pense que c'est ça qui fait d'ailleurs.
Le charme de la série.
Le charme de la série et le succès est assuré par ça. Les enfants adorent, ma fille adore.
Ouais. Super, voilà. Moi j'irai regarder parce que je suis un grand enfant.
n'hésite pas.
Donc, Luntik, allez voir ça, je pense que ça sera intéressant peut-être.
Mm.
On donnera le lien éventuellement dans l'interview. Il y a d'autres dessins animés qui cartonnent aussi.
Oui.
Un peu moins peut-être, mais qui sont quand même.
Ils sont très connus. C'est Masha et Medved.
Masha et Medved.
Histoire d'une fille qui est amie avec un ours dans les forêts.
D'accord.
Une fille, c'est l'incarnation de l'enfance.
Ouais.
Et l'ours, c'est le sage.
Ok.
Voilà.
On s'approche de l'esprit traditionnel. De l'âme russe.
De l'âme russe, oui, oui, oui. Et c'est aussi, c'est marrant, et ça s'exporte aussi bien. Donc, il y a, cette série était récemment vendue en Norvège.
D'accord.
Donc, bientôt, les petits téléspectateurs norvégiens vont voir, vont apprécier, j'espère, cette série.
Peut-être un jour, les Français, qui sait.
Peut-être, peut-être.
Pas aujourd'hui, c'est grave. J'espère bientôt, quand même, ça serait intéressant. Donc, voilà, Lumtik, c'est un carton d'animation russe. Masha et Medved, c'en est un deuxième. Mm-hmm. Il y en a un troisième aussi qui fait rage sur Internet, c'est Smeshariki.
Smeshariki, oui. Smeshariki, c'est plutôt, c'est destiné aux enfants de collège, lycée, et ouais, pour les adultes, pourquoi
pour
pas, oui. Et je pense aussi que le succès de tous ces dessins animés,
ouais,
est assuré par l'exploitation des produits dérivés.
D'accord. Ouais.
Donc, tout ce qui est t-shirt, le linge, ouais, 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 sac à dos, les stylos.
D'accord.
Donc là, tu en trouves plein de Smeshariki, plein de Lumtik, plein de Masha et Medved.
Il y a tout un marketing autour.
Et, vraiment, c'est une filière très développée. Et c'est peut-être ça qui manquait pendant des années à Soyuz Multifilm.
Ah oui, oui, oui. C'est possible. Mais ceci dit, pour vendre des goodies sur, mm-hmm, sur tel ou tel personnage, il faut quand même que le personnage soit très, très attirant.
Tout à fait.
Qu'est-ce,
oui,
qui fait le succès au départ de tout,
ben,
ça?
Au départ, c'est l'histoire.
C'est les valeurs,
c'est, je pense que c'est l'histoire, les valeurs. C'est comme dans le cinéma. S'il y a une histoire derrière, s'il y a quelque, si l'auteur a quelque chose à dire,
ouais,
ça va être apprécié par le public. Mmh. Et du coup, le temps, c'est le meilleur juge. Hein. Donc Lumtik, c'est depuis 2008, si je ne me trompe pas. Et maintenant, ça aboutit...
Ouais, ouais.
Vraiment quelque chose de remarquable pour l'animation russe.
D'accord, et ce n'est qu'un début.
Ce n'est qu'un début, mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et, par contre, aussi, si je peux faire une petite parenthèse.
Bien sûr.
Au sujet de licensing, pardon, c'est tout ce qui est marketing des produits dérivés.
Ah bon.
Voilà. Il y a un personnage qui a été repris récemment. Un personnage de Soyuz Multifilm qui a été repris par la compagnie italienne Mondo TV.
Ah oui.
Et c'est Chat Léo, Côte Léopold. C'est,
ouais, ouais, ouais,
c'est,
oui,
les aventures d'un chat.
Le chat Léo, oui.
Poursuivi par les souris.
D'accord. Les Italiens l'ont pris.
Les Italiens, maintenant, ils vont coproduire.
D'accord.
On parle de coproduction un peu dans le secteur de dessins animés. Les nouveaux séries.
Ah, d'accord.
Voilà.
Et
Mondo TV va apporter ses connaissances aussi en termes de marketing qui va permettre de décoller ce personnage.
C'est une opération internationale sur un film d'animation russe très connu aussi.
Oui.
Le chat Léopold.
Chat Léopold, oui.
Okay. Donc continuons notre panorama des médias russes. Toujours avec Vladimir Grevansky. Parlons un peu des médias russes indépendants.
Mm-hmm.
Pourquoi indépendants? Parce que, on va dire qu'en France, on a l'impression que tous les médias russes sont un petit peu dirigés par l'État et on a envie de voir un peu de démocratie en Russie, même si la Russie n'est pas forcément démocratique au départ, mais voilà, il y a une sorte de fantasme en France et en Europe sur la démocratie en Russie. Et les médias, évidemment, sont un des outils de la démocratie, peut-être.
Oui. Bon, je suis d'accord avec toi que la situation n'est pas facile en Russie, en ce qui concerne la démocratie. En Russie, on l'appelle la démocratie autoritaire.
Ouais.
Ce qui a droit d'exister pendant certains moments, à mon avis.
Ça, c'est pour nous faire plaisir.
Il n'y a pas que ça, non, quand même. Non. On est loin de régime communiste, totalitarisme. On est heureusement loin de là.
Ça, c'est certain. On le souligne pas assez, d'ailleurs.
Les médias, certes, ils sont contrôlés.
Ouais.
Et il y a la censure. Ça peut être bien, ça peut être moins bien. Mais il y a aussi de l'indépendance, c'est-à-dire que
sous quelle forme
personne ne t'empêche de faire une vidéo, de faire un reportage, de monter ta propre chaîne.
D'accord.
en l'occurrence sur YouTube ou Routube, peu importe la plateforme, et de diffuser ce contenu.
Alors, pour être un peu... pour aller dans ce sens-là, je suis russe, je veux faire une vidéo un peu provocante, exprès sur un sujet qui est un peu sensible, et le mettre sur un média en Russie disponible à tous les Russes, c'est possible.
C'est possible, c'est possible. Après, ça dépend jusqu'où tu vas. Et récemment, il y avait un problème. Moi, je le vois comme un problème. C'était une notion de la liste noire qui est passée dans le gouvernement russe, genre la liste noire des ressources web qu'il faut bloquer.
D'accord,
Un jour, les internautes russes ont vu qu'ils n'ont plus d'accès à YouTube.
D'accord.
YouTube est tombé dans la liste noire. Pour une raison, je pense que c'était lié à cette histoire de Pussy Riot.
Oui, ça fait pas longtemps ça.
Enfin, oui, c'est tout récent.
Il y a eu une coupure une journée de YouTube.
Tout à fait.
D'accord. Et ils ont prétendu que c'était une erreur.
Ah, bah, tu connais tout alors, mieux que moi.
Ah, je connais pas tout, je connais juste ça en fait.
Voilà, ils ont prétendu que c'était une erreur, la communication était rétablie. Mais, voilà, donc, ils peuvent te bloquer. Peut-être ils peuvent te menacer aussi. Et il y a des cas comme ça.
Ouais. Ceci dit, il y a des blogueurs. Il y a des blogueurs.
Il y a des blogueurs. Ils peuvent, en ce qui concerne la presse écrite en ligne, là, par contre, il y a encore plus de liberté que sur le vidéo.
Il y a pas mal de blogueurs qui sont illustrés pendant la dernière élection de Poutine, qui ont tenu des propos assez
provocateurs aussi.
Provocateurs qui sont toujours là, même s'ils ont eu quelques ennuis.
Ils sont toujours là et en bonne santé.
Voilà, donc ça fait partie aussi des médias indépendants.
Ça fait partie des médias indépendants. Donc en parlant, si je peux te citer les axes, comme je le vois, des médias indépendants, pour moi, c'est le projet de création de la télévision publique.
Oui.
Et ensuite...
Alors pourquoi la télévision publique, ça veut dire quoi en fait ?
La télévision publique, c'est une télévision, c'est un projet, d'accord ? Donc, un exemple, on peut dire BBC, service britannique, qui est une télévision publique, qui est financée par l'État, et en même temps, c'est une télévision qui n'est pas dépendante de l'État, de gouvernement plutôt.
Ok.
Ça, c'est le projet aussi. Il y a un projet comme ça de créer une télévision publique en Russie qui soit indépendant du gouvernement.
Ouais.
Mais après, comment elle va fonctionner, c'est une grande question.
C'est-à-dire qu'en fait, elle bénéficie de
financements
gouvernementaux, mais le gouvernement n'a pas son mot à dire sur la création
de contenu. Création de contenu, sur.
Et les actionnaires non plus.
Les actionnaires non plus. Il n'y a pas d'actionnaires normalement.
D'accord. Ça veut dire qu'en gros, une télévision publique a beaucoup plus de liberté de création de contenu, n'a pas de compte à rendre sur une rentabilité ou quelque chose comme ça.
Surtout pas.
Et mise beaucoup plus sur l'éducatif, l'information.
L'information.
Le divertissement.
Le divertissement, oui. Oui, oui. D'accord. Et je tiens à dire ça, que pour moi, la télévision publique, ça peut être un indice aussi de développement humain.
D'accord.
Un indice de développement humain comme taux d'éducation, ou espérance de vie, pourquoi pas.
D'accord.
Parce que ça crée une plateforme, si tu veux, d'échange entre le gouvernement et le peuple. Si l'information qui est donnée au peuple est plus ou moins objective, je ne sais pas si tout le monde le veut, le retour aussi peut être très valorisant et bénéfique pour le gouvernement.
D'autant que l'expérience montre dans le monde.
Mm-hmm. Tout à fait, oui.
Que ça fonctionne.
Que ça fonctionne, et ça fonctionne, oui.
À quel endroit, par exemple
Nos voisins d'Outre-Manche.
D'accord. Nos voisins d'Outre-Manche, les Anglais.
Oui.
Ok.
Après, en parlant de la télévision publique, il y a plusieurs projets qui se créent en ligne, sur Internet.
D'accord.
Aussi, ça paraît évident parce qu'Internet, c'est un espace de libre-échange.
Oui.
Donc cette année a été marquée par l'émergence de deux projets.
Ouais.
D'abord, c'était, si vous connaissez Berezovsky,
Boris Berezovsky, son projet de télévision publique.
Voilà,
ça me fait presque sourire en même temps, mais.
Ouais, ouais, moi aussi.
Mais bon.
Il a évoqué ça, qu'il va créer une télévision publique,
d'accord,
indépendante, ouais, en Russie. Et deux mois après, nous avons appris qu'il y a une télévision publique sur Internet,
ouais,
qui a été créée par les jeunes. Voilà, qui faisait de casting, choisissait les présentateurs et tout,
okay,
jusqu'au moment où j'ai appris que derrière, c'est la jeunesse
poutinienne,
oui, qui a organisé, pour faire le contrepartie.
Pour faire une réponse à Boris Berezovsky.
Tout à fait,
d'accord,
tout à fait. Mais ça, par contre, je trouve assez
c'est un peu dommage
parce que ni l'un ni l'autre ne peut pas fournir
d'accord, ils se font passer pour télévision publique mais c'est plus vraiment ça.
Non, oui.
Mais il reste un projet derrière.
C'est en place,
d'accord.
Donc pour l'instant c'est Monsieur Poutine qui désigne le directeur.
Ouais.
J'espère que ça va être évolué et que ça peut donner vraiment quelque chose semblable à BBC. Peu de gens y croient.
Ouais.
Moi, je veux y croire.
D'accord.
On espère bien que ça aboutira à quelque chose de bien, hein, qui sera bénéfique pour la société.
Très bien. Tu m'as parlé d'une autre particularité des médias russes,
mm-hmm,
quelque chose qu'on connaît très peu en France. C'est une chaîne un peu spéciale qui s'appelle Dojd.
Dojd,
c'est la pluie.
Oui.
Et donc c'est le nom de la chaîne.
Mm-hmm.
C'est la première chaîne réseaux sociaux.
Oui, 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 oui. La chaîne TV La Pluie. C'est la seule chaîne qui utilise activement les flux des réseaux sociaux.
Ouais.
Non seulement qu'ils affichent les commentaires des fans sur Facebook,
d'accord,
ou sur Twitter, mais aussi les spectateurs,
ouais,
ils peuvent participer à l'élaboration de la grille de programme,
d'accord,
de Dojd, avec ses commentaires, avec les suggestions, et c'est diffusé sur Internet, mais aussi dans les réseaux des câbles opérateurs russes.
Ça, c'est très novateur.
C'est très novateur et ça marche bien. Il y a beaucoup de gens qui apprécient, des jeunes surtout, qui apprécient,
ouais,
ce type de communication. Ça n'existe pas sur les grandes chaînes russes.
Ouais, ouais. Ça veut dire, si je comprends bien, je regarde ma télé,
mm-hmm,
j'ai une possibilité d'envoyer du contenu à la chaîne.
Non, non, pas de contenu. Des commentaires, ou des suggestions, participer à la communication qui se passe entre, par exemple, le directeur des programmes et les journalistes.
D'accord.
Et comme ça, ils vont savoir quel sujet est plus sensible maintenant,
ouais, ouais, ouais,
et où il faut aller.
C'est que l'utilisateur peut voter pour.
Voilà, tout à fait.
Pour donner son opinion.
Donner son opinion. Qui est compté, ça c'est important.
Qui est compté. D'accord.
Si on parle aussi des médias russes,
ouais,
je voudrais aussi citer un exemple. Le source s'appelle Ridus.
Ridus.
Ridus,
ouais.
C'est une plateforme de journalisme citoyen.
Journalisme citoyen.
Citoyen.
Okay.
C'était lancé comme une réponse à la presse russe, souvent censurée. Voilà.
On est toujours dans le côté indépendant des médias, c'est intéressant. Ouais.
Oui, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est que chacun peut être journaliste.
Ouais.
Si tu as un téléphone avec la caméra, et tu es témoin de quelque chose, tu peux envoyer les reportages sur la plateforme qui vont être modérés, bien sûr.
D'accord.
Et puis, ça sera diffusé.
Chacun d'entre nous devient journaliste s'il, mm-hmm, le souhaite.
Oui, s'il le souhaite. Oui. C'est la création du flux d'informations,
d'accord,
par les citoyens.
Donc on se retrouve avec un flux d'informations effectivement qui est fait par potentiellement tout le monde.
Oui.
Mais pas n'importe comment.
Pas n'importe comment, bien sûr. C'est toujours, il faut toujours modérer. Il faut... Voilà. C'est comme sur les forums d'ailleurs. Tous les forums en France, dans le monde entier, sont modérés.
Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça donne un œil partout au journal.
Un œil partout, même si c'est, ça appartient quelque part à Kamaz, c'est le producteur des camions
à Russie. Kamaz,
oui. Et le PDG de Kamaz, c'est le membre de la Russie Unie également, du parti Russie Unie. Là, je pense pas que c'est vraiment important, parce que ça n'empêche pas d'être assez pointu et
de couvrir beaucoup de sujets
et nous donner un autre regard sur l'actualité. C'est ça qui est bien.
J'ai envie de te poser une question pour terminer. On a parlé de beaucoup de choses sur les médias russes, de beaucoup de types de contenus. On a parlé des dessins animés, des journaux, des films. On a parlé du web, de la télévision publique, etc. et de Redius. Est-ce que, comment dire, la liberté d'expression en Russie, ça veut dire quoi?
La liberté d'expression.
Oui, parce que c'est la liberté d'expression, c'est une sorte de cauchemar franco-français ou européen. Ou...
Par rapport à la Russie.
Nous-mêmes, chez nous, on a du mal à s'en sortir avec ça. On a envie de voir partout. Qu'est-ce qui se passe vraiment ça en Russie? Est-ce qu'il y a une liberté d'expression en Russie?
Moi, je pense, c'est mon propre opinion, que oui, il y a la liberté d'expression en Russie. Après, même si c'est sévèrement censuré parfois, même si c'est menacé parfois.
Comme quoi par exemple?
Comme quoi, je ne veux pas citer des exemples, mais je veux dire, il y avait des gens pendant les élections qui ont publié les vidéos provocateurs des bureaux de vote. Et qui était approché par le gouvernement, par d'autres individus, ils étaient menacés, on les demandait de retirer les vidéos du web. Tu vois ce que je veux dire?
Il y a quand même eu énormément de vidéos qui ont été
publiées. Énormément. La première fois dans l'histoire de la Russie moderne, après la chute de l'URSS, qu'il y avait un tel soulèvement et une réaction très forte par rapport aux fraudes supposé aux élections.
C'est assez intéressant parce que quand on regarde les petites choses que nos médias nous fournissent en gros, en gros plan, comme les poussières riot ou des trucs comme ça, tout le monde se dit « Ah oui, mais il n'y a pas de liberté d'expression en Russie. » Alors que quand on regarde vraiment ce qui se passe en Russie, on a l'impression que tout est permis.
Exactement. Donc tu peux dire tout, tu peux publier tout, presque tout. C'est comme dans le monde entier. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais tu peux critiquer le pouvoir. C'est vrai que tu ne vas pas obtenir des audiences ou tu ne vas pas placer ton émission sur les grandes chaînes si tu critiques le pouvoir. Mais Internet reste ouvert.
Il y a toujours une place sur Internet pour dire quelque chose.
Pour l'instant.
Pour l'instant. Pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure, oui.
Mais écoute, Vladimir, merci beaucoup pour nous avoir accordé ces quelques instants. J'espère que les auditeurs de Russie.fr, cette interview vous a plu. Si vous avez une question à poser à Vladimir Prevoronsky, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires et il vous répondra. Je vous répondrai. En tout cas, je lui ferai passer le message.
Merci beaucoup.
Merci Vladimir. Et longue vie à ton blog.
Merci.
MediaRusse.com